J'ai visité bien des pays de la terre. J'ai vu l'Afrique et ses tribus, ses animaux magnifiques, la pauvreté de ses villages. J'ai vu aussi la Russie et ses quartiers pauvres, la misère de ses taudis, des villes immenses, des métros bondés de gens pressés, des quartiers riches où de pauvres hères, le plus souvent estropiés, vivent de leur mendicité. Et puis j'ai vu l'Inde légendaire, l'Inde en pleine mutation, où se côtoient pauvres et riches, jeunes et vieux, gens incultes et gens instruits, fatalistes et ambitieux. J'ai rencontré aussi des gens qui possèdent encore la sagesse d'autrefois. Un maître de l'art théâtral, un maître de musique et un maître de respiration archaïque. Ayant remarqué ma passion pour les voyages, le maître de respiration m'a demandé « Voudrais-tu connaître le pays de l'éternelle jeunesse ?» Très étonné, j'ai répondu que je n'en avais pas encore entendu parler. Alors il a ajouté « Tu devrais visiter le pays de l'éternelle jeunesse. Je vais t'expliquer où il se trouve. » Après avoir visité tous ces pays où la vie est si difficile, j'avais très envie d'aller me ressourcer. Le pays de l'éternelle jeunesse me semblait tout indiqué pour une halte durable, voire même pour m'y installer. Mais avant, insista le professeur, je dois t'apprendre la respiration archaïque. À mon fort intérieur, je me demandais à quoi cela pourrait bien m'être utile. Mais puisqu'apparemment c'était une condition à laquelle il attachait de l'importance, je choisis de ne pas manifester mes doutes et de prendre quelques jours pour suivre son enseignement. C'était un excellent professeur et sa technique était facile à suivre. En seulement 2 jours, il m'enseigna comment faire. Et pendant les 2 jours qui suivirent, il me laissa m'entraîner seul. Finalement, je lui demandai, est-ce que je vais maintenant pouvoir partir au pays de l'éternelle jeunesse? Il rit et me dit, patience, je vois que tu te débrouilles pas mal. Encore 2 jours et ce sera parfait. Je respirai donc 2 jours de plus, l'air de son ashram, assaisonné d'encens et de parfums épicés. C'est au matin du 7e jour qu'il revint me voir. Tu vas maintenant pouvoir partir. Je vais t'indiquer le chemin. Mais, autant que tu le saches, les gens de là-bas souffrent beaucoup. La vie n'y est pas facile. Un peu surpris, je décidai néanmoins de faire mes bagages. Et je partis, sans me faire davantage de soucis. En arrivant au pays de l'éternelle jeunesse, je n'y trouvais nulle trace de souffrance. Tout le monde était jeune et beau, les femmes étaient ravissantes. Tout le monde semblait souriant et gai, et je n'eus aucun mal à me faire des amis. Quand je leur racontais, dans les soirées où j'étais invité, mes aventures de voyage, tous étaient intrigués. Ils me demandaient de décrire mes rencontres dans les plus grands détails. Parfois, ils paraissaient touchés par toutes ces difficultés auxquelles ils avaient toujours échappé. Elles leur semblaient à la limite du supportable. Quand je leur demandais quel était le secret de leur éternelle jeunesse, ils répondaient invariablement qu'ils savaient prendre soin de leur physique, qu'ils y portaient grande attention et bénéficiaient de toute évidence de toute l'expérience de spécialistes de l'hygiène corporelle. Parfois l'un d'eux ou l'une d'elles ne venait plus aux soirées habituelles et quand je demandais de ses nouvelles, on me répondait que c'était pour se soigner. C'est seulement après un certain temps que je remarquais que les absents ne revenaient pas et que j'aperçus de ci, de là, des regards gênés, des visages inquiets. Je repensais aux paroles de mon professeur de respiration archaïque. Se pouvait-il réellement que les gens d'ici souffrent secrètement? Je trouvais assez vite un studio et un petit boulot. Ce n'est qu'en vivant ici que je pus découvrir la culture de ce pays. Culture du secret, culture de la beauté, culture physique de soins parfaits, de visage où toute ride devait être cachée. Alors je repensais à la vie de Siddhartha, dans le palais merveilleux de son père, là où tout était calculé pour cacher la misère. Se pourrait-il qu'ici aussi existe un monde derrière le monde, un monde silencieux, un monde obscur, caché derrière de hauts murs aux oubliettes de la cité? Et si les gens partis se soigner étaient simplement évacués derrière les murailles de quelque hôpital secret? Un jour que nous parlions philosophie, avec quelques amis, je me décidai à poser la question qui depuis longtemps me brûlait les lèvres. Prenant mon courage à deux mains, je risquai. Puisque vous avez le secret de la jeunesse, avez-vous aussi celui de l'immortalité ? Que n'avais-je pas dit ? Les visages se sont fermés, regards consternés, mâchoires serrées. La discussion cessa sur le champ. Jamais je ne fus plus invité dans les soirées. Évidemment, j'avais dû prononcer un mot tabou. Certainement, tout ce qui faisait penser à la mort, et même son contraire, devait être tenu secret. Je mis très longtemps à me refaire des amis. Dans toute la bonne société, on se méfiait de moi. J'étais une personne imprévisible. Je pouvais, en pleine réunion amicale, dire une énormité et fiche par terre l'ambiance festive de laquelle il ne fallait évidemment jamais se départir. Mes nouveaux amis étaient tous des gens présentant quelques particularités hors normes. En fait, des êtres de seconde zone. Certains n'étaient pas très riches, d'autres pas très bien habillés, d'autres un peu provocateurs. Tous avaient plus ou moins été écartés des soirées mondaines. Avec eux, les relations étaient plus faciles. Même si je devais encore mesurer mes paroles, certains d'entre eux étant très sensibles. Ce qu'il y avait de bien en tout cas, c'est que, même après une première réaction, parfois épidermique, jamais ils ne gardaient de rancune. C'est ainsi que je les appréciais. À leur contact, je compris la réalité des choses. Si l'on voulait survivre ici, il fallait s'engager dans une course à la perfection et y jeter toutes ses forces. Le bronzage en été, le ski l'hiver, étaient des formalités incontournables. Dépenser son argent en soirée, vêtements et victuailles, préparer les ripailles dans les moments de Noël, c'était là un minimum indispensable. Toute l'année, la chasse était ouverte, la chasse aux rides, la chasse aux cheveux blancs, la chasse aux signes de faiblesse, de vieillesse ou de paresse. Seul l'embonpoint était toléré, un peu moqué, mais toléré tout de même, pour le sexe masculin uniquement, en raison du symbole de réussite qu'il représentait.